Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
C'est pas monsieur qui connaît tout et qui se tient comme sur un piédestal et qui veut magistralement enseigner les choses qui sortent de ma bouche. J'aurais dû moi-même aussi m'asseoir et les entendre, car dans cette course, je suis moi-même participant. C'est seulement l'appel et la vocation qui font que je me tienne et que non pas je parle à cet auditoire, mais je nous parle, moi y compris. Fais-nous du bien. Fait de cette heure un moment de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais relire un passage et puis nous allons ajouter trois autres pour continuer la suite de ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Avec votre permission, j'aimerais honorer un frère, un aîné, un grand frère. L'une des premières personnes, quand j'ai été appelé au ministère à temps plein, il était l'administrateur de l'église et c'est lui qui m'a appris les béabas de l'administration. Un homme intelligent, un homme méticuleux, pointu, organisé. Et j'ai appris à ce côté la rigueur, le sérieux, les notions de la ponctualité. Papa Lukusa, voudriez-vous nous faire l'honneur de vous lever afin que l'Église puisse... Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez été pour moi dans ces premières années. Merci pour vos conseils. Merci aussi pour votre patience devant la lenteur du jeune homme de l'époque à saisir et à comprendre certaines choses. Je me souviens plus d'une fois, il m'appelait à mon bureau avec sa voix douce. Frère Dallo, ça il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Premier livre de Samuel, au chapitre 3, du verset 4 au verset 9. Premier livre de Samuel, au chapitre 3, quatrième, au neuvième verset. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. J'aime ça, de nouveau. Donne-nous des gens qui nous appellent de nouveau quand la première fois, nous n'avons pas entendu. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Ah, écoutez le verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais j'aime encore le verset 8. L'Éternel appela de nouveau, « Donne-nous des gens qui nous appellent encore et encore et encore. » Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Ah, soulignez bien la phrase. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Nous lisons aussi l'évangile de Jean au chapitre 4. Évangile de Jean au chapitre 4. Le verset 11, ainsi que le verset 12. La conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine au puits. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Écoutez le verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Troisième portion, Jean au chapitre 8. Et là, nous lisons les versets 30 à 33, ainsi que les versets 39. Jean 8, 30 à 33 et 39. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs Samaritains crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Il ne nous fûmes jamais esclaves de personne, comme tu dis. Vous deviendrez libres. Retenez, nous sommes la postérité d'Abraham. Et le verset 39, il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et nous terminons avec Lamentation de Jérémie, au chapitre 4, le seul verset quatrième, qui part d'une période difficile parmi le peuple de Dieu. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséché par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. La semaine dernière, nous avons commencé à introduire cette série sur les besoins fondamentaux de jeunes ou de la jeunesse. Nous avons dit que nous allons essayer de parler durant plusieurs semaines sur ces besoins essentiels, ces besoins premiers, ces besoins prioritaires attachés à cette tranche d'âge. Besoin une fois satisfait change la vie de ces personnes. Mais besoin non satisfait font que ces jeunes hommes vivent avec un manque. Un manque qui non seulement va les influencer, mais va influencer aussi leur devenir et même les devenir de l'environnement, pour ne pas dire de la société dans laquelle ils vivent. Nous avons dit que ces besoins, bien que fondamentaux, pouvaient être inconnus et même ignorés de ceux pour qui la satisfaction peut faire toute la différence. Ces besoins sont des besoins réels attachés à ces tranches d'âge. Mais eux-mêmes, quelquefois, ne savent pas que ça, c'est notre réel besoin. Ils ignorent. Et parce qu'ils ignorent, ils ne cherchent pas la satisfaction. Et non seulement que eux-mêmes qui ont les besoins, ils ignorent cela, mais ceux qui devaient être des sources pour que ces besoins puissent être satisfaits, ignorent aussi ces besoins. Parce qu'ils ignorent les besoins attachés à cette tranche d'âge, ils ne savent pas ce qu'il faut mettre devant eux. Seigneur, aide-nous à savoir les besoins qu'il y a parmi nos jeunes. Et Lamentation de Jérémie nous montre cela. À un moment où une tranche d'âge a des besoins, il est dit, la langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Il a soif, mais on ne lui donne rien. Et si vous lisez dans les contextes, on ne lui donne rien parce qu'il n'y a rien. Le verset qui vient même avant montre même que les aînés eux-mêmes manquent quelque chose. Comment ceux qui manquent peuvent-ils donner? Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Une autre version dit, personne ne leur offre même une bouchée. S'ils ne peuvent pas être satisfaits totalement, ils veulent ne fût-ce que d'une satisfaction partielle. Mais qui leur donne quelque chose? Une autre version dit encore, on ne leur donne même pas un tout petit morceau. J'aimerais dire, Église, si nous lisons en Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, la Bible nous montre que l'homme est un être tripartite. Il est corps, il est âme et il est esprit. Parents, mettre un habit sur le corps de votre enfant, c'est bien, mais ce n'est pas le seul besoin. Le nourrir physiquement, lui acheter du pain, je ne sais pas quoi, les besoins physiques ne suffisent pas. Nos enfants ont bien d'autres besoins, des besoins spirituels, des besoins émotionnels, des besoins sentimentaux, qui quelquefois ne trouvent pas toujours satisfaction. Combien cette tranche d'âge manque des choses qu'elle-même, elle ignore, et parce qu'elle ignore, elle ne peut les rechercher. Il y a des cris qui sortent du cœur de nos jeunes gens, que moi j'appelle des cris silencieux, étonnants. Des cris que leur âme lance, des cris que leur esprit lance. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ce cri est tellement silencieux qu'eux-mêmes n'entendent pas. Mais les adultes trop occupés à plein d'autres choses ne peuvent pas entendre cela. Qu'il y ait des besoins que ces jeunes gens expriment autrement. J'en ai parlé la semaine passée. Il y a quelques mois dans les banlieues en France, les jeunes gens se sont révoltés. On a vu que le côté un peu anarchiste, mais pourtant c'était un besoin qu'ils exprimaient. Un ras-le-bol, parce qu'on ne leur donne pas la possibilité. Ils sentent que tout est stratifié. On ne peut pas percer. Et ils expriment cela autrement. Que dire de ce qui se passe de l'autre côté? On a parlé du printemps arabe. En majorité, c'est des jeunes. Ils veulent exprimer un besoin. Donne-nous des gens qui entendent ces cris que ces tranches d'âge lancent. Dans Psaume 42, verset 2 à 3, les psalmistes disent, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il montre l'image, une biche quand elle a soif, sa langue sort, elle est en train d'allaiter. Est-ce que nous entendons le soupir de nos jeunes gens? Nous entendons le soupir de cette tranche d'âge. Aide-nous à venir au secours de cette génération. Mais nous en avons parlé la fois dernière. Nous avions un maître, que dis-je, nous avons un maître qui savait voir les réels besoins. Nous avons lu Marc 6, verset 34, qui nous a parlé de Christ quand il a vu cette foule. La Bible dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils ne l'ont rien demandé, mais il a vu leur réel besoin. Et parce qu'il a vu le besoin, la Bible dit, il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Il s'est mis à leur dire des choses quantitatives et qualitatives qui valaient attacher à leur réel besoin. La meilleure manière pour apporter à ces tranches d'âge, c'est dont ils ont réellement besoin et de les connaître, de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Et même quelquefois, ce qu'eux-mêmes veulent, comme je l'ai dit, ils ne savent pas cela. Et parmi les besoins fondamentaux de ces tranches d'âge, la semaine passée, nous avons mentionné deux. Premièrement, nous avons dit que ces tranches d'âge ont besoin des modèles, des exemples. Modèles, en termes de couture, on utilise le terme patron. C'est sur quoi on place autre chose pour couper et reproduire la même chose. Absence de modèles dans notre société. Ou alors, quand il y a modèles, il y a des modèles négatifs. Des modèles négatifs qui sont vantés. Où sont les modèles? Où sont les modèles en politique? Où sont les modèles en affaires? Où sont les modèles de courage? Où sont les modèles d'intégrité? Où sont les modèles dans la vie des couples? Où sont les modèles? Et nos jeunes gens veulent voir des gens qui font, afin qu'ils disent, je ferai demain comme tel. Et plaise à Dieu que vous et moi soyons des modèles. Mais le deuxième grand besoin que nous avons présenté attaché à cette tranche d'âge, ils ont besoin des personnes qui ont foi en eux. Des personnes qui croient en eux. Il semble comme si être jeune, c'est un handicap. La jeunesse est placée parmi les handicaps. Tel travail, telle personne ne peut pas faire parce que... Mais on ne peut pas faire ça parce qu'on est jeune. Mais je l'ai dit le dimanche passé, et je me l'ai répété, il y a des choses pour lesquelles les jeunes sont plus qualifiés. Et quelquefois, quand vous avez essayé les cheveux blancs, et que les cheveux blancs échouent, essayez la jeunesse. C'est que j'aime, et nous en avons parlé dimanche passé, un homme a mis l'avenir de toute une nation en jeu en faisant confiance à un jeune. 40 jours, personne n'est répondu à un défi. Quand Goliath s'avançait, tout un pays reculait. Et j'aime, dit, Saül entendit parler d'un jeune homme qui disait qu'il allait relever les défis. L'abbé dit, il le fit chercher. Là, j'ai pu imaginer, il s'attendait à voir quelqu'un de costaud, quelqu'un il y a 40 ans, et quand il arrive, c'est un adolescent. Il a dû être étonné. Mais quand il a entendu le discours, il n'arrivait pas à associer le discours d'avec l'emballage. Il voyait un courage. Et quand ce jeune homme lui a donné son palmarès, il avait difficile à croire. Ce palmarès, il doit être soit inventé, soit exagéré. Parce qu'il lui a dit, un jour, j'ai tué l'ours. Regardez, waouh. Moi, j'ai jamais même tué un loup. Et lui, il est déjà allé au niveau 12. Et puis un jour, j'ai tué un lion. Waouh! Ah, un lion. Je l'ai dit une fois ici. Moi, malgré ma foi et mon âge, j'ai des problèmes avec les chiens. Je vous ai relaté l'histoire, n'est-ce pas? Nous sommes allés prêcher quelque part il y a une quinzaine d'années. On allait avec un frère. Vous savez, les gens zélés qui connaissent la Bible. Et quand on voulait rentrer, on a vu un chien, on a l'impression que ce chien fait de l'haltérophilie. Il était là. Et quand nous, on reculait, un frère a dit, mais pourquoi vous voulez fuir? L'abbé dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Un ami qui était là connaissait bien sa Bible et dit, on n'a pas cité les chiens. Il y a des gens qui sont trop zélés, on a cité les chiens. Et puis les chiens ne se trompent. Mais lui, il a tué un lion. Et j'aime quand la Bible dit, Saül lui dit, va. Saül, quel risque! Les conditions du combat étaient, si l'on tue votre champion, vous nous serez assujettis. Et si votre champion nous tue notre champion, nous vous serons assujettis. Saül, tout l'avenir d'une nation entre les mains de ce jeune homme, est simplement parce qu'il t'a dit des choses, en plus non vérifiables. Donne-nous des gens qui font confiance à la jeunesse. Saül lui dit, va, va. Mais ce que j'aime avec Saül, c'est qu'il ne fait pas confiance simplement momentanément. Plus tard, quand David est trouvé victorieux, 1 Samuel 18, 5 dit ceci, David allait et réussissait partout l'envoyé Saül. Il fut mis par Saül à la tête du genre de guerre. Il lui confie encore des responsabilités permanentes. Il y a des gens qui ont fait toutes sortes de formations. David, tu vas diriger la guerre. Il lui fait confiance parce qu'il a découvert des atouts. Je l'ai dit, il arrive que la jeunesse semble être un handicap. Non, ce n'est pas toujours un handicap. Mais j'aimerais aussi prendre l'autre versant en disant aussi qu'il arrive que non seulement qu'on ne donne pas l'occasion aux jeunes de s'exprimer ou de montrer de quoi ils sont capables, mais il arrive aussi qu'eux-mêmes sont bloqués par des stéréotypes, par des clichés préétablis par la société qui deviennent comme des lois non écrites, mais bien réelles et présentes. Non pas qu'on les arrête, mais eux-mêmes s'arrêtent. Telle chose, on fait seulement quand on a 50 ans. C'est écrit où? Dans Job, au chapitre 32, on voit un jeune homme qui souffre aussi de ces stéréotypes, mais qui a eu le courage d'aller au-delà. Eliou, il s'appelait. Écoutez ce qu'il dit. Dans Job, au chapitre 32, au verset 6, il dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. » Voilà. Quelquefois, ce ne sont pas les aînés qui nous bloquent. Quelquefois, c'est nous-mêmes. « Je suis jeune et vous êtes vieux. C'est pourquoi j'ai craint. » Une autre version dit, « Je suis jeune et vous êtes vieillards. J'ai redouté de vous faire connaître mon point de vue. » J'en ai un. Mais j'ai dit non, à cet endroit, la jeunesse doit se taire. La jeunesse ne doit rien dire. La version française courante dit, voilà pourquoi j'étais trop intimidé pour oser exposer devant vous mon savoir. Il a un savoir, mais il estime qu'il ne doit en parler. La version parole de vie dit ceci, voilà pourquoi j'avais peur de vous présenter ce que je sais être vrai. Il sait que c'est vrai, mais il s'est dit non. Ici la jeunesse doit se taire. Mais j'aime ce qu'il ajoute au verset 7, renforçant encore ces clichés. J'ai 10 ans en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Cliché. Je vis dans mon petit parcours des vieillards, sagesse et zéro tchijengu. Mais je vis des jeunes à la mamelle, sagesse plus, plus. J'ai dit comme les quinoa, bongo et belé. Je disais, dit la version française courante, c'est aux gens âgés de parler. C'est aux gens mûrs d'enseigner la sagesse. Mais j'aime la conclusion avec laquelle il termine. Mais en vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit. C'est l'inspiration du Dieu très grand. Et j'aime ce qu'il dit dans la version française courante, verset 9. Être sage, reconnaître ce qui est juste, n'est pas une exclusivité des gens âgés. Si vous avez en vous l'ancien des jours, il peut vous rendre capable de connaître les choses anciennes. Ah, quand j'entends Mbouma Atom se prêcher, j'ai dit waouh. À son âge, il n'avait ni la compréhension ni la perception des Écritures. Il n'a pas eu besoin d'avoir 47 ans. Et quand je regarde, et quand il aura mon âge, Lord Lombo, l'école de la cochenille, 22 ans. Les choses qu'il a dites ici, certains de 60 ans, on peut le faire monter si on leur impose et les mains et les pieds, rien ne sortira, même pas la moitié. Le problème n'est pas un problème d'âge. Ah bah au tigre bah pétio na bataille, yo et bigoté. Ah, le problème n'est pas un problème d'âge. Si un jeune homme qui a la main de Dieu, on le laissera prêcher. ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit. L'inspiration du Dieu très grand. Être sage, reconnaître ce qui est juste, dit, ce n'est pas l'exclusivité des vieux. Le troisième besoin, et c'est par là que nous commençons aujourd'hui, de cette tranche d'âge, ils ont besoin de guides. Ils ont besoin de guides. Ils ont besoin de gens qui leur montrent les chemins. Ils ont besoin de gens qui leur disent, voici le chemin à suivre. Voici ce qu'il faut faire. Que des jeunes gens qui n'arrivent pas à devenir parce qu'il n'y a pas de personne à leur côté. Nous avons lu en Samuel chapitre 3. Ce jeune homme, il était déjà mis de côté par Dieu parce que sa mère, avant même de l'avoir conçu, a prié, si tu me donnes un fils mâle, je te le consacrerai. Et ce jeune homme arrive dans un milieu pourri, mais il se distingue déjà parce qu'il mène une vie à contre-courant. Il ne connaît pas tout, mais il a en lui le potentiel pour devenir celui que Dieu l'a appelé. Et Dieu estime que le temps est arrivé. Mais voilà, il ne connaît pas certaines choses. Dieu l'appelle. Samuel, Samuel. Lui va vers Élie. Appel authentique, mais réaction maladroite. Mais ce que j'aime, Dieu est patient. Il arrive que Dieu soit patient, les hommes ne sont pas patients. Parce qu'il ne répond pas de la bonne manière, Dieu ne s'arrête pas. La Bible dit, Dieu l'appela de nouveau. Parce qu'il sait le potentiel qu'il a placé en lui. Et pour la deuxième fois, il va dans la mauvaise direction. Mais ce que j'aime, Dieu ne s'arrête pas. Et il appelle de nouveau. Et ce que j'aime, ce jeune homme avait eu la grâce d'avoir à ses côtés l'homme qu'il fallait. La Bible dit, Élie comprit que c'est l'Éternel qui a appelé l'enfant. Il comprend ce que le jeune homme ne comprend pas. Il perçoit ce que le jeune homme ne perçoit pas. Mais non seulement qu'il comprend, mais il prend ces choses, il les met à la disposition de celui qui manque. Combien de gens qui ont et qui gardent et qui n'aiment pas partager avec la nouvelle génération. Machiniste à Utex Africa depuis 42 ans. Quand ces jeunes gens qui viennent de l'Istat viennent à relaxer dans le bilogoté. Pas prêt à communiquer des connaissances. Et lui comprit que c'est l'Éternel Dieu qui a appelé l'enfant et lui dit, la prochaine fois quand on va t'appeler, dis parle, car ton serviteur écoute. Et quand le jeune homme a utilisé les paroles de ses guides, c'était le grand départ pour la vie. Donc nous des gens qui comprennent ce que nous ne comprenons pas et qui le mettent à notre disposition. Gratuitement en plus. Donne-nous des gens qui nous servent de guide. Donne-nous des gens qui nous orientent dans les mariages. Donne-nous des gens qui nous orientent dans les ministères. Donne-nous des gens qui nous orientent dans la vie tout court. Mais pour que les gens puissent servir de guide, premièrement, ils doivent avoir des choses. On ne peut servir de guide, et surtout la nouvelle génération, que si on a des choses. J'aime quand l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 6, il dit, ce que j'ai, je te le donne. On ne peut donner que ce que l'on a. Donne-nous des gens qui ont. Vieille génération, est-ce que nous avons? Il y a des gens qui ont 50, 60 ans, rien à donner. Et je l'ai souvent dit ici, Ecclésiaste 1, 4 dit, une génération s'en va, une autre arrive. La qualité de vie de la nouvelle génération dépend de la qualité de vie de l'ancienne génération. Car c'est comme une course de relais, on se transmet les témoins. Plus la qualité de la génération qui précède est basse, plus on ne peut rien espérer de la génération qui suit. Parce que la génération qui suit est influencée. Qu'avons-nous? Et qu'est-ce que nous donnons? Deuxièmement, non seulement qu'ils doivent avoir, mais ils doivent faire montre de compréhension. C'est-à-dire, c'est mettre à la place des jeunes. Quand je dis compréhension, j'aurais voulu même ajouter, faire montre d'empathie et de compréhension. C'est mettre à la place des jeunes, en essayant de ressentir ce qu'ils ressentent, en faisant usage de la mémoire. Qu'il y a des gens qui veulent quelquefois que nous en prenions en un jour ce qui leur a pris 10 ans. Mais ces jeunes gens, ils sont lents. Mais vous-même, vous êtes passé par le même chemin. Ce que vous êtes devenu, c'est le fruit de la compréhension des générations passées. Mais vous ne voulez pas faire cadeau de la compréhension. Donne-nous des gens qui nous comprennent, qui s'identifie à nous. J'étais comme ça. Je faisais comme ça. J'en parlerai quand je parlerai de besoins fondamentaux des adolescents. que des mamans aujourd'hui qui sont devenues sages à 30 ans, 35 ans, elles veulent que leur fille de 15 ans soit sage. Toi, quand tu avais 15 ans, tu étais sage. Tu rentres de l'école avec des petites lettres, avec un cœur dessiné. Et à notre âge, on ne faisait pas ça. À notre âge, toi, tu faisais quoi? Comme tous les papas étaient premiers de classe. C'est comme ça, les peuples, quand on proclamait, on dit premier ex aequo, 40 personnes. Ah, il y a des choses sur lesquelles c'est vrai, je veux caser les enfants, mais j'essaie de m'arrêter. Je dis, moi-même, à cet âge, j'ai fait des bêtises. Dans Hébreux chapitre 2, verset 18, la Bible est parlant du Christ dirant ceci, quand ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'aime ces cantiques que nous chantions autrefois, il marche à oser marche, sentit ce que je sens, et il comprend. Il y a des gens qui ne veulent pas faire montre de compréhension. Je me souviens, j'étais dans une famille, et la dernière fille avait difficile à marcher. Je pense jusqu'à l'âge de 13 ou 14 mois. Et l'avant-dernière s'est levée, lui a dit, mais il faut que les ça facilite. Tout le monde a le sali, mon ami. L'un des parents a dit, attention, toi jusqu'à 16 mois, on s'est demandé si tu allais marcher. Donc c'est qu'elle-même, elle a eu difficile à faire. Elle exige chez l'autre. Pas d'empathie. Pas de compréhension. Troisièmement, ceux qui doivent servir de guide ne doivent pas rejeter les jeunes à cause de leurs défauts ou des manquements momentanés. Que des aînés qui regardent en haut les jeunes les méprisent et même des fois les corrigent en les abaissant. Dans Colossiens chapitre 3, verset 21, l'apôtre dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Correction, oui. Mais avec quelle méthode, avec quel moyen? Le but, c'est de le voir changer, de l'avoir changé. Mais quel moyen, quelle méthode? Quatrièmement, ceux qui veulent servir de guide doivent participer au devenir en étant des partenaires actifs. Actifs par leur présence, par leur accompagnement et par des connaissances qu'ils mettent au servir des autres. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et parce qu'il a compris, il a accompagné. Voilà ce que tu dois faire. Avant de clore ces points et passer à autre chose, j'aimerais dire deux choses aux jeunes. La première, c'est quelquefois c'est à nous d'aller aussi vers les aînés. Source de connaissances qu'ils peuvent nous transmettre. Que de jeunes gens imbus d'eux-mêmes, autodidactes, qui pensent tout connaître. Une maman avait sa fille de 12, 13 ans, elle hésitait. J'aimerais lui parler sexualité, mais je me demandais est-ce le bon moment. Et puis un beau matin, elle s'est levée, elle a dit à ma fille, viens, on va parler des choses sérieuses. Sa fille lui a demandé de quoi. Il dit la sexualité, la fille a croisé les jambes. Qu'est-ce que tu veux que je t'en prenne sur ces points? Parce qu'elle a tout lu sur Internet. Qu'il y a des jeunes gens qui manquent d'avoir des choses parce qu'ils ne vont pas. Cet homme qui sera déposé à terre mardi, il a souvent servi de coach dans ma vie, dans ma marche. Ah, je me souviens plus d'une fois, nos bureaux étaient pas très éloignés. Les jeunes dans les ministères, j'ai recevé des cas avec C majuscule. J'avais l'onction pour chasser les démons, mais l'onction pour résoudre certains problèmes compliqués, ce n'était pas évident. J'aimerais vous lancer un, comme à l'université, on appelle ça Casius. Ne me suivez pas entre les deux cultes pour me demander quelle a été sa réponse. 3 ans dans le ministère, un couple est venu me voir, pasteur. Depuis 2 mois, on a découvert que mon mari est séropositif. Et puis on a fait les examens, au même moment, moi je suis séronégative. Mon mari tient non seulement ses conduits de mener la vie des couples normalement, mais il ne veut pas de protection. Elle utilise la Bible en disant que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais pasteur, moi non seulement je veux la protection, mais quelquefois j'ai peur même de la protection parce que ça peut lâcher. Et depuis 2 mois, je lui dis, tu ne me touches pas, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime dire aux jeunes gens dans le ministère, ne soyez pas spécialistes des réponses en tout. Et l'humilité quelquefois de dire, oh yo, naïe bité. Allez vers quelqu'un de plus expérimenté. Ce n'est pas parce que tu trembles au Kangrabandoki. J'ai simplement pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai dit, allô pasteur, tu es dans ton bureau? J'ai dit, oui. J'ai dit, j'ai un cas, alors un vrai pasteur. J'ai dit, C majuscule, A majuscule, S majuscule, K. J'aimerais non seulement te les amener, mais si tu peux accepter que je sois là pendant que tu vas les conseiller. Parce que j'ai un long parcours, il est possible des choses comme ça, je les rencontre. J'aimerais déjà te donner 3 minutes. Si tu étais toi, tu disais, non, 3 minutes c'est beaucoup, 3 secondes. Quelle est la réponse? Je vois Chadari déjà, il a dit sa réponse. Et j'ai amené ce couple et puis on s'est assis. Quand cet homme a ouvert la bouche, il a parlé en 10 minutes. Quand il a fini, j'allais dire un peu comme en géométrie, hein, à la fin, ce qu'il fallait démontrer. J'ai regardé, j'ai dit, ah! Moukolo, ça, moukolo, hein? Que des connaissances qui sont quelque part et que l'on peut rechercher. Humblement. J'aime dans la parole de Dieu quand la Bible enseigne sur ce que la Bible appelle des jeunes prophètes. Dans 2 Rois chapitre 6 au verset 3. Ils prennent conscience que l'endroit où ils sont est devenu étroit. Ne peuvent plus les contenir. Les constats, c'est eux qui ont eu à faire les constats. Et ils veulent qu'il y ait un changement. Ils disent, nous devons aller couper des poutres et agrandir la place. Et écoutez, ils vont vers leur maître. Et dit, nous voulons aller. Écoutez sa réponse. Allez-y. Il les encourage. Mais j'aime ce que l'un d'eux a dit. Consent à venir avec nous. Qu'il y a des jeunes gens qui se privent des choses simplement parce qu'ils veulent pas reconnaître que l'ancienne génération a des choses. Consent à venir avec nous. Ah, j'essaie de m'imaginer cet homme âgé. Il avait son dos courbé, cils et sourcils blancs, dents absentes dans la bouche. Quand il parlait, ça glissait. Vous avez vu? Et quand il a commencé à marcher, il a retardé leur vitesse. Des jeunes gens qui avaient des enjambées ont commencé à blâmer celui qui a fait la démarche. Pour nous, c'est coucou. Les vieillards retardaient les rythmes. Et puis ils sont arrivés. J'ai toujours cru que leur instrument de travail a dû tomber parce qu'ils voulaient récupérer le temps perdu. Ils voulaient rapidement. On serait arrivé depuis 3 heures. Et c'était les règnes des biceps et des triceps. Et puis à un moment, paf. Les bois s'est détaché du fer. Les rênes de la vigueur est fini. Maintenant, c'est les rênes de la sagesse et de l'expérience. Et celui qui avait 3 jambes s'avance et les redit à l'ébolongo. Il s'avance et dit, le temps de la jeunesse est fini. J'aimerais dire aux jeunes, nous ne pouvons pas tout. Il y a des gens qui peuvent des choses. Et il a utilisé une méthode inimaginable. Il a placé les bois et le fer a surnagé. J'imagine ces jeunes gens ont dit, oh, vieux Azasso, moi. J'ai relaté cette histoire plus d'une fois. On était jeunes dans la foi et dans le ministère. Et on croyait qu'on était l'adresse de l'onction. Et surtout en termes de délivrance. Je vais même citer des noms, c'est pas grave. Nous étions en train de faire la délivrance d'un frère qui est maintenant en Belgique. On était en train de chasser les démons, on était là depuis plus de 2 heures. Oh non, de Jésus! Malgré les intonations qui changeaient, les démons ne sortaient pas. Et puis on a vu Madame Vernon s'avancer en venant doucement, à sa manière. Et puis il nous a demandé, frère Veilly, frère Landou, c'est quoi? Nous, on est en train de chasser les démons. Et puis elle est venue. Je me souviens, le pasteur Veilly a dit, monsieur, vous êtes un cocaté, un cacaillé. Elle a utilisé une méthode qui est devenue une jurisprudence les années qui ont suivi. Elle nous a simplement demandé, son nom c'est comment? On a donné le nom du frère. Puis il a commencé à dire, j'aimerais que tu participes à la délivrance. Il a appelé par son nom, le démon faisait, il dit, démon, c'est pas à toi que je m'adresse. Je m'adresse à lui, il a appelé par son nom, il dit, tu peux le dire. Et puis il a si tu me reconnais, dit, madame, dis. Puis il a dit, madame, dis, j'ai renié à telle chose. J'ai renié telle chose, il a renié trois choses. Et madame Vernon a dit, sors, pas. Démon parti. Elle a repris son bâton et elle est partie. J'ai vu le pasteur venir et dit, mais voilà, sors-moi. Jeunes gens, nous ne connaissons pas tout. Il y a des choses qui se trouvent quelque part et que nous pouvons avoir. Jeune marié, quand vous entendez Maman Béo a dit 50 ans, allez vers elle. Au salon de nous vivre 50 ans. 50 ans, monsieur, il est capable d'en amener ça. Biloubou. Quelqu'un a dit l'amour passe par les ventres. Hein? Dami kona so amoni ti papa tomboki mingi na ko lokele sala kinde kingamo na ko so mangu na ngeba na pilipili ya ver tangwa komia bi oye uti wapi nena uti ngeba uta uti ngeba te que des choses que les gens disent avec moi amen consent à venir avec nous. Comment tu as fait pour être aussi constant dans le ministère autant d'années? Comment tu as fait pour résister aux vents et tempêtes? Mais deuxième et avant-dernière chose que j'aimerais dire aux jeunes avant de toucher le dernier point et clôturer ce matin. Jeunes gens, les réactions des aînés, quelquefois dures, ne veulent pas toujours dire mépris. Compréhension ne veut pas toujours dire aussi gentillesse. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 17, lorsque Christ a vu que ses disciples n'arrivaient pas à produire ce qu'ils devaient produire, écoutez ce qu'il a dit, race incrédule, perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ce n'était ni un mépris. C'était juste une frustration de voir qu'ils n'arrivaient pas à devenir ce qu'ils souhaitaient, mais ce n'était pas un rejet. Et les jeunes, quand ils reçoivent ça, leur spécialité, c'est des décisions. Dieu lui-même va m'amener. Mais des bons jeunes, ils peuvent être comme Pierre. Alléluia. Même quand on a été dur avec, il dit, à qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu passeras à côté de l'essentiel. Aïe, je me souviens, dimanche, j'ai prêché. Tout le monde voulait me transporter comme sur un chipoy. Message somme. Quand on saluait les gens, pasteur Benoît m'a dit, Dalo, tu me vois demain. Je savais, j'ai dit, aïe. Je pensais moi-même à faire l'anamnèse du message. J'ai introduit comment j'ai. Le lendemain, quand on s'est retrouvé, il a disséqué les. Ça, c'est des balivernes. Et vous savez, dans la jeunesse, dans mon cœur, j'ai dit, vieux, à la contre-ingrave. Vieux, à la contre-ingrave. Dureté ne veut pas toujours dire méchanceté. Quatrième chose, et je pense que je vais essayer de rester parce que je pense que c'est le point focal pour ce matin. Quatrième grand besoin de jeunes. Et quand je parle de jeunes, je parle de jeunes en tant que fils d'une mère et d'un père. Et surtout cela. Les jeunes ont besoin des gens qui travaillent pour leur laisser un héritage. Des gens qui travaillent pour eux. Des gens qui leur transmettent des choses quelquefois palpables, mais non palpables. Où sont les gens de la génération d'avant qui travaillent pour les générations futures? Pour qu'il y ait héritage, il doit y avoir deux parties. L'une qui travaille, se sacrifie, paye les prix, et même des fois un prix très élevé. Et une autre qui bénéficie. qui quelquefois bénéficie sans rien faire, simplement qui reçoit le fruit du travail de la génération d'en avant. Dans Jean chapitre 4, verset 37 à 38, Christ montre cela comme principe. Écoutez ce qu'il dit. En ceci, ce que l'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Et il va plus loin en disant, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Les gens ont besoin de gens qui travaillent pour eux. J'aime quand je vais en Occident, surtout aux États-Unis, je vois le respect que les jeunes générations ont pour ce qu'ils appellent les vétérans. Parce qu'ils savent la paix dont ils sont bénéficiés aujourd'hui. Les autres sont marqués dans leur corps pour qu'ils aient cette paix. Ils respectent ceux qui sont morts en 14-18. Ils respectent ceux qui sont morts en 40-45. Quand on nous en parle, nous ne savons pas saisir les prix qu'ils ont payés. Vous allez dans les aéroports, aux supermarchés aux États-Unis. Quand ces vétérans arrivent, on les laisse passer. Parce que l'on sait que ceux dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui, ils ont payé les prix. Ici, nous n'avons pas ces respects. On leur a donné même des noms qui assassinent la vocabulaire. Faux tête, démarrer. D'autres ont travaillé. Et nous nous sommes entrés dans leur travail. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la partie B, l'apôtre dit ceci. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour... Ce n'est pas plutôt aux enfants d'amasser pour leur père, mais c'est aux pères d'amasser pour leurs enfants. De travailler, de se battre. Et les jeunes gens ont besoin de gens qui se sacrifient, qui peuvent même rendre leur aujourd'hui moins plaisant, afin que les gamins de nouvelle génération soient plaisants. Et parmi les choses que les jeunes veulent recevoir en héritage, et là j'ai tout sur toi la famille, il y a un élément très important. Le premier héritage, qui est un héritage légué le plus souvent inconsciemment, c'est le nom. Les jeunes ont besoin de quelqu'un qui leur donne un nom significatif. Un nom. J'aimerais vous dire, le nom, ce n'est pas seulement un son vocal. Le nom, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on dit. Le nom, c'est une valeur sociale. Le nom, c'est plus qu'un son. J'aimerais que parents, nous puissions comprendre cela. Le nom, c'est l'image. Le nom, c'est la valeur. Un nom peut vous ouvrir des portes, tout comme il peut vous fermer des portes. Un nom peut vous donner du poids aux yeux des autres, tout comme il peut vous faire paraître vil, vous obliger à vous cacher. Le poids ou l'absence du poids d'un nom sont attachés au style de vie de celui qui les donne. Comment vous vivez? Qu'est-ce que vous faites? Posez-vous des actes louables ou pas? Posez-vous des actes significatifs ou pas? Il y a des exploits que les parents font et qui seront comme des clés passe-partout pour les enfants. J'étais il y a quelques années à Brazzaville, je vais prendre l'avion pour aller à Pointe-Noire. Et puis un jeune homme est arrivé. Et dès qu'il a cité son nom, on a commencé à lui ouvrir toutes les portes. J'ai demandé c'est qui. On m'a dit non. C'est le fils du pilote de Air Afrique qui à l'époque on a voulu détourner l'avion. C'est lui qui avait fait ceci. Lui, il n'a rien fait. Mais les actes que son père a posés lui ouvrent des portes. Donne-nous des parents qui nous laissent un nom qui pèse. Un nom que nous sommes fiers à brandir. Que des gens à cause des dégâts globaux et totaux qu'ils ont eu à faire, nous avons difficile à nous présenter en leur nom. Il y a un monsieur célèbre à l'époque à Kisangani, on disait qu'il coupait les têtes des gens. J'ai connu un de ses fils, il donnait son prénom et son poste nom. Il ne fallait pas citer le nom. Parce que qui sait, tu n'allais pas retrouver quelqu'un qui l'avait coupé la tête. Maman vivait sérieusement. Papa vivait sérieusement. J'étais un jour avec un ami et j'ai vu comment il était gêné. Il s'est juste présenté. Un homme qui était là l'a dit, tu es le fils de ces chiens. Et puis il s'est rétracté. Il dit, pardonne-moi. L'ami qui était avec moi voulait demander, qu'en est-il? Il dit, ton père, on l'appelait Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Il dit, on l'appelait Lucky Luke parce qu'avec lui, moi, c'est à l'écarté. Les coureurs de jupons, c'était quelqu'un d'autre. Mais quand on voit le fils, on dit, aïe, c'est le fils de Lucky Luke. garder qui l'équilibre que naoyo moko. Mon boulot nous a basé et goyo kang langa bikouk. Quel nom vous nous laissez? Quel nom vous nous laissez? Quel des parents coureurs de jupons, femmes Angeba, femmes Amadimba, mission un peu à Bolobo, enfant. Mission de service à Yangambi, à l'Inera, enfant. Et tu pars, tu nous laisses héritage. Nous, on pensait qu'on était à 8. Le jour de ta mort, 32 personnes viennent. Et même quand on veut douter, on voit seulement les faciès. Mais oui, l'onginangaït. Quel héritage vous laissez aux générations? En 2002, je parlais avec une jeune fille, elle pleurait. Elles sont nées à 5, de 5 papas différents. Et à la cour de la récréation, elle est en train de parler à l'une de ses amies. Permettez-moi d'utiliser ce terme. C'est assez vulgaire, mais je voulais juste répondre. Son ami lui a dit, moi j'ai un mot lasso. Fille d'une pute. Qui ne connaît pas que ta mère court avec tous les hommes. J'ai vu cette jeune fille pleurer. Et j'ai jamais oublié la phrase qu'elle m'a dit. Elle dit, pasteur, dommage que Dieu a fait que ce sont seulement les parents qui peuvent punir les enfants. Si les enfants pouvaient punir les mamans, j'allais la punir. Elle m'a fait sortir sa souffrance. Combien elle souffrait de voir chaque semaine un nouvel homme qui vient, qui passe la nuit avec maman. On ne peut rien dire parce que c'est maman. Quel nom vous laissez? Quel nom vais-je laisser? Vous allez dire, comment faire pour laisser les noms? Jeunes gens, ces noms que l'on laisse, on commence à les forger aujourd'hui. Déjà quand vous êtes jeunes, des tricheries là à l'université. Toi, jeune fille, 17, 18 ans, ta spécialité cochine. Alors, tu te dis, je ferai ça jusqu'à un certain âge et puis ça va finir. Un jour, ça va te suivre. Et ça va suivre des enfants qui n'ont rien fait. À moins que tu ne te répandes et que tu confies cela entre les mains du Seigneur. Le nom est un héritage. Seigneur, aide-moi à laisser un nom duquel mes enfants n'auront pas honte. Elles pourront se présenter et dire, je m'appelle Rohan Dallo. Je m'appelle Johanna Dallo. Un nom, un héritage. Et dans Jean chapitre 4, verset 12 que nous avons lu, la femme samaritaine n'a pas honte devant Jésus en parlant de prononcer ses paroles. Elle est fière de son aïeul plutôt. Et elle exhibe même comme un trophée les choses que son aïeul a eu à faire. Écoutez ce qu'elle dit. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Fier de Jacob. Es-tu plus grand que lui? Il nous a laissé ses puits. Donne-moi de laisser après moi des choses que les enfants vont exhiber comme des trophées. Dans Jean 8, 33 à 39, nous avons lu, ces hommes n'ont pas eu honte de dire, nous sommes fils d'Abraham. Prêts à porter ces noms, prêts à s'attacher à ces noms pleins de valeurs. Mais deuxième héritage, mais celui-là on les lègue consciemment, souvent de manière réfléchie. Et cet héritage sont les choses qui l'on communique, surtout les valeurs. J'aimerais terminer avec ce passage et lisez avec moi Jérémie chapitre 35. Il est assez long, mais j'aimerais quand même le lire. Jérémie chapitre 35, versets 1 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Jérémie 35, 1 à 10. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Il prit Jezania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Il dit, je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalum, garde du seuil. Il dit, j'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et j'aime au verset 8, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Verset 10, nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Des jeunes gens ont besoin des gens qui leur laissent un héritage. Des choses qu'ils feront, disons, nous faisons parce que quelqu'un nous a dit. Parce que quelqu'un nous a montré des chemins. Combien de jeunes aujourd'hui manquent des repères, des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ils n'ont pas reçu un héritage sur lequel ils peuvent s'appuyer et présenter comme un trophée. Ça, c'est maman qui m'a appris. Ça, c'est papa qui m'a appris. Ça, c'est mon mentor. Ça, c'est mon pasteur. Dans un monde qui bouge, qui change et qui devient sans repère. Monde dans lequel il n'y a plus ni bien absolu, ni mal absolu. Nos jeunes ont besoin de certitudes. Et ces certitudes doivent être communiquées. Dans 2 Timothée 3, verset 14, l'apôtre Paul, parlant son fils dans la foi, il lui dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme étant certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Et les récabites, ils restaient dans les choses héritées de leur père. Mon épouse et moi, on a été agréablement surpris. L'année passée, je pense que c'était au mois de mars, février ou mars, avant que notre première fille termine ses études secondaires. Et mon épouse est venue me dire un jour, tu sais, Eunice va présenter un papier à l'école. Un sujet sur lequel elle a travaillé. Elle va présenter cela. Et je dis, j'ai lu et j'ai été plein d'émotions. Et puis je pense le lendemain, elle m'a amené ce papier. Quand je l'ai lu, je pense avoir pleuré une heure. Le thème du papier était « Mon héros ». Mon héros. On leur avait demandé de parler sur quelqu'un qui les a marqués, quelqu'un qui les a frappés. Et ce héros, c'était son papa. Elle a mentionné des choses qui remontent, elle avait 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je me suis dit, elles observent jusqu'à ce point. J'ai vu papa faire ça et j'ai dit, j'aimerais être comme ça. J'ai dit, papa traverser cette période, je ne l'ai vu jamais faire ça. Ils nous voient, ils observent. Et à la fin, elle a dit, j'aimerais être comme lui. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière ce matin. J'aimerais lancer deux appels. J'aimerais d'abord demander à une certaine génération qui sait qu'elle a un nom à léguer. Je ne sais pas comment tu as vécu jusqu'à présent. Mais avec Dieu, tu peux corriger les erreurs du passé. Tu veux dire, pasteur, prie avec moi. J'aimerais laisser un nom dont mes enfants seront fiers. Vous qui avez déjà des enfants, ou vous qui êtes en train de les avoir. J'aimerais que des hommes et des femmes qui veulent dire, prie avec nous. Que Dieu me pardonne pour les actes que je pose autrefois, sans connaître les seigneurs, qui peuvent peut-être demain déteindre l'éclat de la vie des enfants. Mais j'aimerais poser des actes significatif désormais que je connais le Seigneur, afin que demain mes enfants soient fiers de moi comme la Samaritaine, comme les Israélites. Y a-t-il des hommes, y a-t-il des femmes qui veulent dire, pasteur, prie avec nous. J'aimerais laisser un nom, un vrai nom, un nom qui pèse. À vous, je vous demanderai de vous lever. Mais toujours dans ce premier appel, comme une sorte d'appendice, y a-t-il des jeunes gens aussi qui veulent dire, pasteur, nous sommes jeunes, mais nous avons pris conscience qu'un nom, on les forge déjà très tôt. Très tôt par les styles de vie. Je ne suis pas encore père, je ne suis pas encore mère. Je suis appelé à les devenir. Mais je voudrais mener un style de vie qui fera que demain je puisse léguer un nom significatif. À vous aussi, je vous demanderai de vous lever. Le deuxième appel et le dernier, il concerne ceux qui se sont levés. Et d'autres peut-être qui sont restés assis. Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile de t'ai laissé un nom significatif à cause des choses que tu as eu à faire autrefois, des manquements graves, même très graves. Mais ces manquements sont liés à une époque où tu ne connaissais pas le Seigneur. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et tu as conscience que ce matin, que si Dieu ne change pas la teinture de ton histoire, tu vas léguer une vie tachée. La seule et l'unique manière de changer la teinture de cette vie que tu as jusqu'à présent, c'est de donner ta vie au Seigneur. Et donner ta vie au Seigneur, ce n'est pas venir à l'église. Donner ta vie au Seigneur, ce n'est pas passer par quelques sacrements. Donner ta vie au Seigneur, ce n'est pas même être régulier à Philadelphie. Donner ta vie au Seigneur, c'est reconnaître que tu es perdu. Reconnaître que tu ne peux pas te changer. Mais t'appuyer sur l'œuvre de la croix en criant au secours. S'il y a quelqu'un qui veut changer sa vie, qui veut que sa vie change, mais qui prend conscience que cela ne peut changer, que c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Il tend la main vers les sauveurs. Vous qui êtes ici, vous allez vous avancer, vous mettre à genoux. Vous qui êtes à l'Isanga, vous allez aussi vous avancer. Et nous allons prier avec vous. Il y a ces vieux cantiques d'autrefois qui montent dans mon cœur. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé, agneau de Dieu, je viens. Et nous qui nous sommes levés, nous allons prier. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à léguer comme héritage un nom. Et nous qui voulons nous réconcilier avec Dieu, afin d'être ceux ou celles qui donnent l'héritage consistant, venez et réconciliez-vous avec le Seigneur.
Alléluia.
À chanter avec moi, tel que je suis.
Tel que je suis, sans rien.
Il nous demande de venir à lui tel que nous sommes.
Sinon,
et lui, il nous rend tel que nous soyons.
Et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens.
Je viens.
Je viens.
Tel que je suis.
Tel que
bien vacillant.
Je suis
en
bien vacillant. En toi, en tout, à chaque instant.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.